Le thème de notre message ce soir, c'est les obstacles à la prière. Les obstacles à la prière. Nous avons étudié tout le mois passé ce que j'appelle l'école de la prière, où nous avons vu différentes sortes de prières. Nous avons vu notamment la prière de combat, la prière d'enfantement, la prière de foi, la prière d'intercession, la prière de consécration, la prière de requête, la prière d'action de grâce, la prière par l'esprit et la prière d'union. Nous avons vu les différences entre ces prières et des nuances. Nous avons vu que chacune de ces prières répond à certains besoins dans notre vie. Et que si nous savons les pratiquer, alors nous allons obtenir des résultats. Cette école de prière va transformer la vie de quiconque l'écoute et de quiconque l'entend. Cette école de prière va révolutionner sa vie de prière, va révolutionner sa vie en tant que chrétien, va révolutionner son existence et va lui permettre de pouvoir entrer véritablement dans une vie de puissance. Mais on ne pourrait bénir quelqu'un entièrement en lui expliquant comment prier si on ne lui donne pas également les éléments qu'il doit éviter à tout prix s'il veut voir sa prière être efficace. Sa prière est efficace. Parce que la prière ne consiste pas seulement en des paroles, mais elle nécessite également beaucoup de choses qui doivent être mises en place si nous voulons avoir des résultats. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous allons voir à peu près 9 obstacles à la prière efficace. 9 obstacles, 9 choses qui peuvent empêcher ta prière véritablement de porter, ta prière d'être agissante, ta prière d'être puissante et ta prière de provoquer des bouleversements et des changements. Il y a des choses et des habitudes, des comportements qui nous empêchent de recevoir de Dieu lorsqu'on prie. Amen. Par exemple, la première chose, c'est carrément le refus de demander. Le refus de demander. Il dit dans Matthieu chapitre 7, verset 7, « Demandez et l'on vous donnera ». Il n'a pas dit « pleurer et l'on vous donnera ». Il n'a pas dit « supplier et on vous donnera ». Il n'a pas dit « penser et l'on vous donnera ». Mais il a dit « demander et l'on vous donnera ». Il y a des personnes qui, parce qu'elles pensent à quelque chose, s'imaginent qu'elles ont demandé. Tous les jours, c'est l'objet de tes pensées. Mais est-ce que tu as exprimé ce besoin à Dieu ? J'ai une illustration il n'y a pas très longtemps. C'était pas une pensée, mais c'était plutôt, vous savez un peu comment les enfants font. Ma fille voulait que je la prenne. Mais elle vient, et elle ne me demande pas, papa, prends-moi. Mais elle vient, elle commence à faire des bruits, des pleurs. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle se retourne. Elle fait des petits bruits, elle pleure. Bon, à moi maintenant de chercher à comprendre ce qu'elle veut. Peut-être que elle a faim, peut-être qu'elle a envie de boire quelque chose, peut-être qu'elle a envie de voir quelque chose, ou bien, je dis, mais qu'est-ce que tu veux? Et c'est là, j'ai su, en fait, qu'elle voulait que je la prenne. J'ai dit, mais pourquoi tu demandes pas? Il n'y a pas de problème. Et c'est là qu'elle me dit, ah, papa, prends-moi, tu vois. Et quand j'ai vu ça, je dis, mais quelque part aussi, nous, les hommes, on a tendance à se comporter comme ça. En réalité, on dit qu'on a demandé à Dieu, mais est-ce qu'on a véritablement demandé? Est-ce qu'on a pris notre temps pour dire, Seigneur, donne-moi ceci, cela? Est-ce qu'on a vraiment pris notre temps de demander? Beaucoup manifestent le besoin, le désir, par des pleurs, par des pensées, par des actions peut-être qu'ils posent, mais il faut aller jusqu'à demander. Amen. Et il ne faut pas faire des prières de plainte, mais plutôt des prières de requête, de demande. Seigneur, tu vois comment je souffre. Tu vois comment la solitude est en train de m'accabler. Je suis opprimé. Vraiment, c'est dur pour moi. Mais demande-lui en même temps, Seigneur. Toi, tu sais ce que tu veux, mais tu parles de tout ça. Demandez. Et c'est pas comme ça que le Seigneur veut que nous prions. Amen. Il veut qu'on prie, c'est vrai. Et il a dit, demandez et l'on vous donnera. Et nous avons donc divisé les différentes sortes de prières dans l'école de la prière. Nous avons divisé en trois grands groupes. Les prières de demander, donc les prières de requête, demander l'on vous donnera. Les prières de frappe, frapper et l'on vous ouvrira. Et les prières qui nous permettent aussi de chercher. Donc, de demander, chercher et frapper. C'est des grands groupes. Et à l'intérieur se trouvent des formes de prières. Jacques, chapitre 4, verset 2. On va faire souvent référence à ce verset qui est riche en enseignement. Il dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous convoitez et vous ne possédez pas parce que convoiter ne va pas te permettre de recevoir. Il y a des personnes qui pensent que parce qu'elles trouvent que telle maison est belle, Dieu va la leur donner, mais tu ne la recevras pas parce que il faut que tu demandes pour pouvoir recevoir. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux. Vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes parce que le fait de ne pas obtenir et de ne pas pouvoir posséder les choses dont nous avons besoin, le fait de ne pas pouvoir posséder les choses qui nous plaisent, des choses qu'on veut, Dieu veut que nous soyons prospères, Dieu veut que nous soyons bénis, Dieu veut qu'on multiplie, Dieu veut qu'on soit dans la joie, qu'on soit heureux, qu'on possède tout ce que l'argent ne peut pas acheter et tout ce que l'argent aussi peut acheter. Amen. Mais quand tu n'as pas ces choses, tu vis dans une frustration et qu'est-ce qui se passe? Tu as des querelles et des luttes incessantes. Il dit, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Amen. Donc, le refus déjà de demander est un des premiers obstacles. Il faut changer sa manière de penser. Il faut changer sa manière de prier. Et il faut être capable de pouvoir s'adresser à Dieu. Il a dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, un, croit qu'il existe et qu'il est le... D'accord. Qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Il veut être... Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'il veut que quand tu t'approches de lui, tu crois qu'il est capable de pouvoir te donner ce que tu lui demandes. C'est la moindre des choses, c'est une expression de foi, c'est la moindre des choses qu'il attend de toi. Que tu ne lui parles pas comme à un être virtuel, mais que tu lui parles comme à quelqu'un qui existe bel et bien et qui est capable de pouvoir te donner ce que tu lui demandes. Ça fait toute une différence dans notre approche, dans notre manière de nous approcher de Dieu. Savoir demander. Le deuxième obstacle, c'est d'être en désaccord avec la parole de Dieu ou avec la volonté de Dieu. Une prière ne peut être efficace lorsqu'elle est faite contrairement à la volonté de Dieu. Tu ne peux pas prier, c'est un exemple, pour que le frère que tu as rencontré divorce de sa femme et qu'ils viennent t'épouser. Soyons sérieux. Tu ne peux pas prier pour demander à Dieu de faire des choses que toi-même tu sais sont contre la morale. Il y a des personnes qui sont venues me demander, homme de Dieu, il faut prier pour moi, je veux faire un enfant. Je dis, ah bon, tu veux faire un enfant quand? Non, maintenant, je veux faire un enfant. Je dis, mais tu es marié? Elle me dit, non, je ne suis pas marié. Je vis avec mon copain. Donc moi, je vais prier pour que tu fasses un enfant avec ton copain. Mais c'est grave. Je vais plutôt prier pour que tu te maries d'abord. Amen. Et après que tu sois marié, je vais prier maintenant pour que tu aies un enfant. J'ai eu une histoire un jour dans un supermarché en Côte d'Ivoire où une femme vient. Voilà ton enfant. Voilà ton enfant. Et je fêtais avec ma femme ce jour-là. Je vois un regard bizarre sur ma femme. Et puis moi-même, je regarde là. Je dis, mais à quel moment je t'ai connu? Voilà ton enfant. Et là, la personne qui explique que non, lors d'une croisade, d'une conférence, j'ai prié pour elle, pour qu'elle puisse avoir un enfant. Et puis donc, c'est l'enfant qu'elle a eu là, qu'elle me présente. Elle dit, ah, maman, que Dieu te bénisse. Et il y a beaucoup d'enfants actuellement dans le monde, oui, qui portent mon nom, ou bien qui sont venus parce que la mère était stérile, ou bien le mari était stérile, et par la grâce de Dieu, la personne a été guérie, parce que c'est la volonté de Dieu qu'on soit fécond, amen, et ils ont pu avoir donc des enfants. Voilà, gloire à Dieu. Amen. Mais il faut prier en accord avec la volonté. Il y a des choses que Dieu veut que tu aies. Mais il y a d'autres choses qui doivent se produire dans ta vie d'abord avant que tu aies le droit d'avoir ces choses-là. Est-ce que tu me suis? Amen. Donc, faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut demander, mais il faut demander de manière intelligente. Il faut demander en accord avec la volonté de Dieu. Je demande d'abord, il y a des gens qui prient, Seigneur, donne-moi une maison. Je dis non. Prions pour que tu aies un travail. Amen. Et le travail, maintenant, va te permettre d'avoir une maison. On prie d'abord pour que tu aies un travail, et ensuite, on prie maintenant pour que tu aies une maison. Est-ce que vous me suivez? Donc, il y a quand même un minimum d'intelligence dans la prière. C'est pas parce que c'est une prière que il faut dire tout ce qu'on veut. Non, il faut quand même analyser la situation et savoir que, je vous dis, il n'y a pas de gros problème en réalité. Les gros problèmes, quelle que soit la taille du problème, c'est une suite de petits problèmes qui doivent être résolus. Donc, commence déjà par demander à Dieu de résoudre ce petit problème-là, et ensuite celui-là, et ensuite celui-ci, et tu vas voir qu'au fil du temps, ta vie va se résoudre totalement. Mais quand tu pries, bon Seigneur, donne-moi une maison, et tu te mets à la recherche d'une maison alors que tu n'as pas de travail, lorsque tu arrives devant la personne maintenant qui doit te louer la maison, bon, votre fiche de paie, non, en fait, j'ai habité là par la foi. Il dit, bon, moi, je connais pas cet argent qu'on appelle la foi. Moi, je veux voir une fiche de vos trois derniers relevés de paie. Sinon, je peux pas vous donner la maison. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a au moins cette intelligence-là de prier d'abord selon la volonté de Dieu et de prier aussi de manière intelligente. Paul l'a dit. Il dit, je bénis Dieu de ce que je prie en langue plus que vous tous. Mais il a dit, je prie par l'esprit, mais je prie aussi comment? Par l'intelligence. Les gens pensent que quand on dit je prie par l'intelligence, ça veut dire que je prie en français ou bien en anglais. Non. Je prie par l'intelligence, ça veut dire que je réfléchis, j'analyse. Amen. Je pense, je réfléchis et je demande par rapport à des besoins spécifiques pour obtenir un résultat spécifique. Prier par l'intelligence, ça veut dire que on fait une prière intelligente. Troisième obstacle à une prière efficace, c'est le fait de douter. On est toujours dans Jacques. On va prendre Jacques chapitre 1, versets 6 à 8. À partir du verset 5 à 8. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. On peut mettre tout à la place de sagesse. Si quelqu'un d'entre vous manque d'argent, qu'il le demande à Dieu. Si quelqu'un d'entre vous manque de force, qu'il le demande à Dieu. Si quelqu'un d'entre vous manque de santé, qu'il la demande à Dieu. Si quelqu'un d'entre vous manque d'amour, qu'il le demande à Dieu. Amen. Donc, toutes ces choses-là, tu les demandes à Dieu. Qui donne à tous, il donne à tout le monde, simplement et sans reproche. Et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Vous savez ce qui fait la différence entre un enfant de Dieu et puis un païen? C'est que l'enfant de Dieu a la foi. Sinon même les païens prient. Les païens demandent à Dieu. Pour lui, il demande à Dieu. Il est en face d'une situation, vraiment Seigneur, sauve-moi. Ils sont nombreux. Vous voyez même les païens, lorsque par exemple, ils ont un match de football, ou bien ils ont un concert, ou bien ils ont une réunion, ce genre de choses. Ils font tous une petite prière avant d'y aller. Mais la différence entre le païen et le chrétien, c'est la foi, c'est pas la prière. Amen. Et la foi, c'est le fait de ne pas douter. C'est le fait de croire que Dieu a entendu ma prière et qu'il répond à ma prière. Alléluia. Donc, quand quelqu'un prie, il doit prier avec foi. Ce n'est pas le fait de demander qui te permet de recevoir, mais c'est le fait de demander avec foi qui te permet de recevoir. Donc, il faut l'ingrédient de la foi, c'est important. Demander avec foi. Il dit, mais qui la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. S'il passe son temps à douter, ah, est-ce que tu vas me donner? Oh Seigneur, est-ce que Dieu même est capable de donner ce genre de choses-là? Tu vois, lui-même, qu'il ne pense pas qu'il va recevoir quoi que ce soit de Dieu, il ne recevra rien. Parce que Dieu a un mode de fonctionnement. Ce n'est pas un appareil, mais lui ne change pas. La Bible dit qu'en lui, il n'y a pas d'ombre de variation. Et tout ce qu'il a exigé de ceux qui ont reçu, il exigera de toi de marcher dans la foi sans douter. Je vous ai expliqué que souvent, le doute, c'est le fruit de la chair. La chair aime douter. C'est la chair qui nous pousse à douter. C'est pour ça que Dieu nous donne des exercices tels que le jeûne. Le jeûne, les gens pensent que le jeûne, c'est pour se priver de nourriture. Non, le jeûne nous permet de pouvoir avoir le contrôle sur notre chair. De pouvoir calmer notre chair, de pouvoir empêcher notre chair d'avoir une influence négative sur notre foi. Pourquoi? Parce que la foi est générée par l'esprit. Il n'y a que l'esprit qui est capable de croire sans douter. Sinon, l'homme, la chair de l'homme, le corps de l'homme, l'emmène à douter. Regardez Pierre, lorsqu'ils étaient dans la barque et qu'il a vu Christ s'avancer, il a dit au Seigneur, « Seigneur, si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne et je viendrai. » Et le Seigneur a dit, « Viens. » Quand il a reçu la parole, il est sorti. C'est un homme audacieux. Il a mis le pied dehors. Il a mis l'autre pied, il a commencé à marcher sur l'eau. Maintenant, il y a quelque chose qui s'est produit. Alors qu'il était sur l'eau, il a commencé d'abord à regarder et il voit ses pieds sur l'eau. Il dit, ah, moi-même Pierre qui suis un pêcheur, qui vais sur l'eau tous les jours, je n'ai jamais vu les pieds de l'homme sur l'eau. Donc ce sont ses yeux déjà qui ont commencé à lui poser des problèmes. Ensuite, il a senti une brise là. Après ça, il regarde autour, il voit que vraiment, il est vraiment au milieu de l'eau. Tu vois, c'est la chair qui lui a envoyé des signaux pour lui dire que, écoute, ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas normal. Amen. C'est la chair. Sinon, spirit, c'est pour ça que le Seigneur a dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est la chair. Donc, la chair va t'envoyer des messages. Et ce sont ces messages-là qu'il ne faut pas écouter. C'est pour ça que le Seigneur a dit, le juste vivra par la foi. Et non pas la vue. La chair, pour être convaincue, elle a besoin de toucher. Elle a besoin de voir. Elle a besoin de sentir. Elle a besoin de goûter. Ou bien entendre. Donc, il faut qu'il y ait deux de ces signes-là, ou bien trois de ces sens qui fonctionnent pour que la chair soit convaincue qu'effectivement, il y a quelque chose. Je vous prends un exemple. Vous entrez dans une salle. Ok. Vous connaissez votre mari, vous connaissez son parfum. Vous entrez dans une salle, ou bien dans la douche, ou dans la chambre, et vous sentez, le simple fait de sentir l'odeur du parfum de votre mari, déjà, vous le voyez dans la chambre en train de mettre son parfum, même si vous ne l'avez pas vu, mais vous êtes convaincu qu'il était là et qu'il a mis son parfum. Pour vous, vous êtes convaincu de ça. Vous pouvez même l'imaginer en train de le faire. Votre foi dans les choses matérielles est en train de fonctionner, basée sur les cinq sens. Mais la foi agit comme un sixième sens, qui convainc les cinq autres sens. Quand vous avez la foi que Dieu a fait quelque chose, ce n'est pas le fait de voir qui va vous convaincre pour que vous ayez la foi. Mais lorsque vous aurez la foi, la foi va convaincre vos yeux, votre bouche, votre nez, vos oreilles et tout que ce que vous avez demandé est en train de se faire. Amen. De la même manière que vous touchez quelque chose, vos yeux sont fermés, vous ne l'avez pas vu, mais vous pouvez savoir ce que c'est. De la même manière, la foi aussi peut amener votre corps à recevoir la chose que vous avez demandé avant que cette chose-là ne se matérialise. Mais il faut le développer. Comme tout sens, un sens, ça se développe. Il y a des gens qui développent leur oui. Il y a des gens qui développent leur odorat. Vous savez qu'il y a des gens, on les paye à cause de leur nez. C'est leur travail, on les appelle des nez. Tu vois, sa carte de visite, il s'appelle tant. Fonction, nez. Donc, lui passe son temps à respirer des odeurs. Il fait des compositions de parfums. Il sent une odeur, il peut reproduire cette odeur-là parce que il travaille son nez. Vous avez des personnes qui travaillent leur voix. Elles chantent, mais vraiment, c'est extraordinaire la manière dont elles chantent. Elles font attention. Elles entretiennent ce sens-là. Les personnes qui ont besoin de leur sens, par exemple, de toucher, vous savez que les aveugles n'ont pas besoin de voir. Ils passent leurs doigts sur des petits points là. Et puis ils savent et ils arrivent à lire. Moi, je passe mon doigt sur le point, je sais même pas s'il y a des points. Mais lui, quand il passe son doigt, il est en train de lire des trucs. Et vous avez d'autres, par des signes, ils arrivent à communiquer. Pourquoi? Parce que, à cause de la carence d'un sens, ils ont appris à développer d'autres sens. Mais la foi est un sens aussi, qu'on peut développer. Et lorsque la foi est développée, la foi va convaincre les autres sens que ce que nous avons demandé, nous l'avons reçu. Amen. C'est pour ça qu'il faut que nous, on croit d'abord qu'on a reçu avant de le voir s'accomplir. Les péchés non confessés sont aussi un obstacle à la prière. Quand tu as commis un péché, Dieu sait que tu peux pécher. Amen. Donc quand tu as commis un péché, il faut jamais laisser ce péché-là sans le confesser. Même si tu as l'impression d'être vraiment quelqu'un d'hypocrite, qui passe son temps à demander à Dieu 20 fois par jour, il faut continuer de le faire. Ne laisse jamais un péché sans le confesser. Parce que vous savez, lorsque Dieu pardonne, il choisit d'oublier qu'il a pardonné. Donc quand toi tu viens, tu dis, Seigneur, je viens encore devant ton trône. Il dit, mais où encore? C'est la première fois que je te vois. Il y a une fille, une fois, elle a commencé à avoir des visites du Seigneur. Et elle dit à son pasteur, le Seigneur me visite. Le soir passé, j'ai vu le Seigneur. Et lui, il n'était pas trop sûr parce que, bon, il se disait que ça pouvait être une séduction. Comment elle, une fille comme ça, bon... Elle vient à peine de se convertir, le Seigneur la visite, alors que moi, le grand pasteur qui a fait toutes les écoles bibliques, le Seigneur ne m'a jamais visité une fois. Donc, il veut lui faire un piège, il lui dit, la prochaine fois que tu vois le Seigneur, il faut lui demander de te dire les péchés que tu as commis la veille. Lorsque le Seigneur vient, elle lui dit, Seigneur, si c'est vraiment toi, dis-moi les péchés que j'ai commis la veille. Le Seigneur la regarde, il dit, mais tu n'as commis aucun péché. Elle dit, arrière de moi, Satan. Va-t'en. Le Seigneur dit, non, je ne suis pas Satan. Elle dit, non. Elle bouche ses oreilles, elle ferme ses yeux, elle met l'oreiller. Papa, arrête, et tout ça. Donc le Seigneur s'en va. Il n'aime pas brusquer ni les gens. Donc le lendemain, son pasteur lui dit, ah, tu as encore vu le Seigneur? Elle dit, je crois que je me suis trompé, ce n'était pas le Seigneur. Il dit, mais pourquoi? Elle dit, non. Quand je lui ai demandé de me dire, comme vous avez dit, de me dire les péchés que j'ai fait la veille, il m'a dit qu'il ne savait pas. Si c'était le Seigneur, elle allait savoir. Et le pasteur qui lui demande maintenant, mais tu t'es repenti avant de te coucher? Elle dit, oui. Il dit, mais c'est tout à fait normal, c'était le Seigneur. voyez comment souvent des gens peuvent vous induire en erreur. Parce qu'ils sont, ils sont des devanciers et ils ont vu des fois ce que vous avez. Et ils peuvent, mais même la plupart du temps, ils ont vu ce que vous avez. Et vont vous rendre les choses compliquées. Mais en même temps, il a fait, bon, certainement pour le bien de la fille, mais il ne lui a pas expliqué jusqu'au bout ce qu'il voulait faire de cette information. Mais en fait, pour lui, effectivement, si tu as demandé pardon à Dieu, et que tu demandes, Seigneur, dis-moi quel péché j'ai fait, il ne peut pas te dire quel péché tu as fait parce qu'il t'a pardonné. Dieu n'est pas comme les hommes. Je te regarde bien, Dieu n'est pas comme toi. Parce que toi, quand tu pardonnes, tu te rappelles très bien que tu as pardonné. Et chaque jour, la personne à qui tu as pardonné, tu vas lui dire. Aujourd'hui, c'est toi qui parles, c'est toi qui parles. C'est pas toi la dernière fois là. Donc, c'est que tu n'as pas pardonné. Mais Dieu, quand lui pardonne, il oublie en même temps qu'il a pardonné. C'est-à-dire qu'il ne fait plus cas de ça. C'est plus quelque chose qui va venir se mettre entre toi et lui. C'est pour ça que quand toi tu as l'impression que tu viens encore devant le trône pour demander pardon, pour lui c'est la première fois que tu viens. N'aie pas de scrupules, n'aie pas de honte à revenir 20 fois dans la journée, 25 fois dans la journée, 30 fois dans la journée. À force même toi, tu vas te rendre compte que vraiment tu exagères. Tu vas commencer à diminuer un peu. Alléluia. Mais il faut, au début c'est important. Il y a une chanson qui dit, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec moi. C'est-à-dire qu'il faut t'accrocher au Seigneur. Et quand il y a un péché qui vient, il ne faut pas dire non, ce péché-là, le Seigneur ne va pas pardonner. Il va pardonner. Et tu t'accroches encore. Et tu ne permets pas, parce qu'un péché non confessé va bloquer l'efficacité de ta prière. Le diable va t'accuser dessus. 1 Pierre chapitre 3 verset 12 nous dit ceci. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Amen. Les yeux du Seigneur sont sur les justes. Amen. Donc c'est pas sur les injustes, hein. Les yeux du Seigneur sont sur les justes. C'est les justes qui surveillent, c'est les justes qui regardent, c'est les justes, amen, qu'ils suivent. Et la Bible dit, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Donc, ses yeux suivent les justes, ses oreilles écoutent leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et moi, je pourrais dire, mais la face du Seigneur est contre les justes qui font le mal. Parce que le « ceux » là, c'est pas pour dire, il est contre ceux en général qui font le mal, puisque ses yeux sont sur le juste. Ses oreilles écoutent leurs prières. Mais sa face est contre ceux. Mais quels sont ces ceux-là? C'est pas les gens du monde. Moi, je dis, tous les versets que je vois dans la Bible s'adressent aux chrétiens. Parce que je sais que ce sont les chrétiens qui lisent la Bible. Les païens ne lisent pas la Bible. Donc, quand Dieu veut qu'on récupère une information, il la met dans la Bible. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux, personnellement je vais rajouter, est contre ceux d'entre eux qui font le mal. Amen. Donc il faut demander pardon, marcher dans la sanctification, ne pas faire le mal et Dieu sera avec nous. Parce que ses yeux sont déjà sur nous. Mais si tu vis dans le mal, tu fais le mal, tu te repens pas, alors il sera contre toi. Et comme ça, tu vas dire, mais j'ai l'impression que le ciel est tombé sur moi. C'est ça? 1 Jean chapitre 3, verset 20. Toujours en parlant du péché. 1 Jean 3, je vais lire à partir du verset 19. 19 à 22. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Dieu est plus grand que ton cœur. Mais si déjà lorsque tu viens devant Dieu, ton cœur te condamne, à combien plus forte raison Dieu qui voit encore plus de choses, qui est encore plus sensible, voit ce qui est en train de se produire dans ta vie. C'est pour ça que tu dois confesser ton péché. Tu ne dois pas laisser le péché entre toi et Dieu. Parce que si dans ton cœur tu as de l'assurance, si dans ton cœur tu crois que véritablement tu es juste devant Dieu et que tu vis dans la sanctification, alors tu vas t'approcher de lui avec assurance. Et quoi que ce soit que tu lui demandes, tu le recevras parce que tu gardes ses commandements et que tu fais ce qui lui est agréable. Amen. C'est la condition. Je fais ce qui est agréable à Dieu. Donc tout ce que je demande, il me le donne. Parce qu'il prend plaisir en moi. Je désobéis, je vis dans la désobéissance et Dieu me résiste. C'est pour ça que si tu veux avoir une prière efficace, tu dois marcher en conformité avec la volonté de Dieu et faire ce qui lui est agréable. On va lire aussi le psaume 66, verset 18. Psaume 66, verset 18. Je veux que vous lisiez vraiment tous ces passages-là. C'est bon, ça nous édifie. De voir que toutes ces choses sont dans la parole de Dieu. C'est extraordinaire, non? Psaume 66, verset 18. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Je vais vous raconter une autre histoire. Un frère qui prie le Seigneur avec sa femme, il fait un vœu. Donc dans sa prière, il dit, Seigneur, si tu me donnes 500 000 euros pour monter l'entreprise que je veux monter, moi je vais donner à ton œuvre, je vais semer dans ton œuvre 100 000 euros. Sa femme lui dit, mais chérie, c'est un peu trop, non? Et puis il dit à sa femme, chut, tais-toi, je le blague. Il dit, chut, tais-toi, je suis en train de le tromper. Je ne sais pas, est-ce que ce genre de choses-là est possible? De t'approcher devant Dieu, de demander quelque chose à Dieu, de faire une promesse à Dieu, sachant que quand Dieu va accomplir ce qu'il a dit qu'il allait faire, toi, tu n'es pas prêt à faire ce que tu es en train de dire que tu vas faire. C'est grave. Et c'est ce que David dit. Il dit, si mes pensées étaient mauvaises, Dieu ne m'aurait pas exaucé. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, Dieu ne m'aurait pas exaucé. Même quand tu pries, Dieu regarde ça. Quelles sont les dispositions de ton cœur? Qu'est-ce que tu veux voir arriver? Qu'est-ce que tu veux produire dans la vie des autres? Est-ce que tu veux cela pour pouvoir t'enorgueillir? Pour pouvoir dire, oh, quel homme extraordinaire je suis? Ou bien pour montrer aux gens ta puissance ou bien ta force? Ou bien est-ce que tu attends véritablement que quelque chose de positif, quelque chose de bon, quelque chose de puissant se fasse? Et que tu le fasses avec amour. Les mauvaises motivations aussi sont un obstacle. On l'a déjà lu dans Jacques chapitre 4, verset 2. Les mauvaises motivations. Cinquième obstacle. On peut relire encore si vous voulez. Jacques chapitre 4. Verset 2. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne pouvez pas posséder parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. Et pas dans le but de satisfaire la volonté de Dieu. Quand il parle de vos passions, il parle des désirs de votre chair. Pas des désirs de votre esprit. Les passions, c'est les désirs de la chair. Et les passions, ce sont des choses qui ne durent pas, ce sont des caprices. Pour ça, des gens disent, non, j'ai un amour passionné pour toi. Mais si j'ai un amour passionné, éloigne-toi de moi. Parce que c'est la chose la plus dangereuse. Parce que l'amour passionné aime avec passion pendant un temps, mais ça finit toujours. Et puis ça devient autre chose. Tu deviens maintenant sa bête noire, son ennemi juré. Parce que lui, c'est un passionné. Et nous, on veut assouvir nos passions. Or, nos passions sont éphémères. Aujourd'hui, je veux un 4x4. Seigneur, donne-moi un 4x4. Seigneur, si tu me donnes pas un 4x4, vraiment, je peux pas respirer. Il faut que j'ai un 4x4. Il faut que je montre aux gens que, vraiment, moi aussi, je peux rouler dans un 4x4. Après, non. Seigneur, je veux une voiture coupée sport. Parce que Dieu ne peut pas suivre ce genre de choses. Est-ce que tu me suis? Dieu ne peut pas suivre ce genre de choses. C'est pour ça que les motivations sont importantes. Quand c'est un caprice, il n'exaucera pas. Quand c'est un besoin, il l'exaucera. Parce qu'il nous a fait cette promesse. Il dit, je pourvoirai à tous vos besoins. À tous vos besoins. Mais pas à vos caprices, pas à vos désirs. Et quand, à quel moment même il a dit, je pourvoirai à tous vos besoins? Lorsque les chrétiens ont pourvu aux besoins de l'Église. Amen. Tu pourvois aux besoins de l'œuvre de Dieu. Dieu pourvoit à tes besoins. Amen. Mais tu ne peux pas pouvoir au caprice de l'œuvre de Dieu. Si tout de suite je vous dis, donnez-moi de l'argent, je vais acheter une Porsche parce que j'ai envie de rouler en Porsche. Est-ce que vous allez donner? Vous allez dire, ah, nous-mêmes, on a envie de rouler en Porsche aussi. Amen. Mais si c'est un besoin, vous allez vous demander, mais en quoi rouler en Porsche va permettre à l'œuvre de Dieu d'avancer? Et c'est tout à fait normal. Mais si c'est un besoin, si on a besoin, par exemple, d'une baffe, ou bien on a besoin d'un micro, ou on a besoin de guitare, ou on a besoin même d'un camion, ou bien d'un car, même de 70 places, qui est 50 fois plus cher qu'une Porsche, vous allez trouver ça normal d'investir dans l'achat d'un car, parce que ça correspond à un besoin pour pouvoir déplacer un groupe de personnes. Amen. Donc, le vrai problème, ce n'est pas la taille, ou bien le prix de la chose, ou la valeur de la chose, mais c'est l'utilité de cette chose-là dans ta vie. Est-ce que tu me suis? Amen. Dieu peut refuser de te donner un certain type de voiture et puis te donner un avion. Amen. Parce que, dans un certain sens, l'avion répond à un besoin, alors que ce type de voiture-là ne répond qu'à un caprice ou un désir d'enfant, parce que tu as toujours rêvé quand tu étais petit d'avoir telle voiture, donc il faut que Dieu te la donne. C'est ça le problème. Nos motivations. Donc nos motivations peuvent être aussi un obstacle à la prière. Amen. Un autre obstacle majeur que beaucoup ne connaissent pas. Les conflits de couple. 1 Pierre chapitre 3 verset 7. Regardez ce que la Bible dit. Verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la comme devant aussi héritier avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Ah, il y a des femmes maintenant qui vont se saisir de ça pour faire du chantage. Chérie, faut lire ce verset-là un peu, puis dis-moi ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'il doit se plier à toutes tes exigences et à tous tes caprices aussi. Mais ça veut dire aussi quand même que si les rapports ne sont pas cordiaux entre monsieur et madame, les prières ne montent pas. Il y a un obstacle. C'est Matthieu 18, verset 19 nous dit, si deux d'entre vous s'accordent pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Donc si monsieur et madame sont d'accord, la prière est exaucée. Parce que souvent, les deux s'équilibrent. Quand l'homme va vouloir, mais ça c'est tout à fait normal, si les personnes sont enseignées, hein, bien entendu s'ils sont enseignées, si les personnes sont enseignées que Le mari dit, bon, chérie, on va prier le Seigneur parce que je veux m'acheter la dernière Mercedes qui vient de sortir. Ça dit, oh, chérie, toi aussi, tu en as déjà deux. Est-ce que tu as besoin de prier encore pour ça? Tu vois? Et puis, bon, ils vont discuter tout. Ils vont s'entendre. Et ils vont faire des prières intelligentes. Parce qu'il y aura toujours l'équilibre. Donc, s'accorder pour la prière, c'est important. C'est pour ça que Dieu dit, si deux d'entre vous s'accordent. Mais les deux d'entre vous, là, c'est pas deux personnes comme ça. Tu vas, tu vois un clochard, tu dis, bon, viens, on va s'accorder pour prier. Non. C'est deux d'entre vous, c'est deux enfants de Dieu qui marchent selon la volonté de Dieu, qui connaissent la parole de Dieu. Amen. Qui sont dans la volonté de Dieu. Lorsqu'ils s'accordent pour demander quelque chose, obligatoirement cela leur sera accordé. Il y a une puissance quand deux enfants de Dieu, vrais enfants de Dieu, s'accordent. Ils disent, bon, on va s'accorder, on va prier pour tel sujet. Amen. Si deux d'entre vous s'accordent. Maintenant, s'il y a la discorde, il y a les querelles, l'amertume, le manque de pardon, les prières sont bloquées. Et ce n'est pas seulement les prières du mari. C'est les prières du mari et les prières de la femme. Parce que ça crée comme un bouclier. J'étais bien entendu. Un bouclier. Quand vous priez là, ça frappe le bouclier, ça revient. C'est normal. Dans une maison, avant de prier. Et toi-même dis, avec ta tête là, si je savais, j'allais pas te marier. Quand mes parents me disaient de ne pas te marier là, hein, j'aurais dû les écouter. Hein, j'aurais dû marier un mari riche, comme ça j'allais pas souffrir. Après, tu rentres maintenant dans la chambre. Oh Seigneur, mon Dieu. Impossible. La prière ne monte pas. Tu as fait toutes sortes de prières. Prières de combat, prières de requête, prières d'intercession. Tu as fait toutes les sortes de prières. Ça bouge pas. Ça va pas plus haut que le plafond de la maison. Mais si dans la maison, il règne la paix, l'harmonie, le pardon, l'amour, la quiétude. Oh chérie, ça va? Tu as bien mangé aujourd'hui? Tu as bien dormi? Et toi? Oh, on va prier le Seigneur. Là, là. C'est message prioritaire. Ça monte. Amen. C'est pour ça qu'il ne faut pas cultiver tout ce qui peut emmener les discordes. Mais plutôt, en tant qu'enfant de Dieu, même si ton conjoint n'est pas converti, c'est pour ça aussi qu'il faut réfléchir avant de te marier. Pas l'épouser un païen. Ou bien une païenne. À moins que vraiment, tu sois quelqu'un de patient. Parce que même si c'est une païenne, et même si c'est un païen, il faut préserver l'harmonie conjugale. Faut préserver, c'est ta responsabilité. Parce que toi tu sais, toi tu connais. Tu es instruit, tu es éclairé. Donc quand une soeur me dit, ah vraiment je veux me marier avec le frère là, mais c'est un païen. Je dis, ben, est-ce que tu peux? Elle me dit, oui je peux. Je dis, faut pas dire ça parce que la chair te pousse, est-ce que tu peux? Parce que demain... Quand tu as dit, mon mari me fait ceci, mon mari me fait cela, je vais te dire, faut le regarder avec un sourire. Et puis tu dis, je t'aime chérie. Continue de me frapper, je t'aime. Empêche-moi d'aller à l'église, c'est pas grave. Mais il faut préserver l'harmonie. Jamais je vais te dire de partir ou bien de divorcer, jamais. Tu vas prier jusqu'à ce qu'ils se convertissent. Et tu vas supporter les épreuves et les choses qui vont te faire supporter jusqu'à ce qu'un jour, lui-même se pose la question, il dit, mais pourquoi même je me comporte comme ça? Et depuis là, je suis en train de faire souffrir la sœur, mais elle est toujours souriante, elle est toujours gentille, elle s'occupe toujours des enfants, elle ne me fait jamais d'histoire. Et ce jour-là, il va savoir qu'il y a un Dieu, il va se convertir. Amen. Mais si c'est toujours des bagarres, des histoires, les prières que tu vas faire seront bloquées. Dis à ton voisin, bloqué. Des conflits de couple. C'est pour ça que Paul a dit que si tu n'es pas prêt à gérer un mariage, il faut rester célibataire. Ce n'est pas grave. Alléluia. Voilà, c'est pas. Et il dit, il allait loin même. Il dit que le père même qui ne veut pas que sa fille se marie fait quelque chose de bien. C'est ce que la Bible dit. Parce que celui qui se marie, il doit se soucier des choses de la chair. Parce que vous avez des gens aussi, quand ils se marient, ils veulent continuer de vivre comme des esprits. Chérie, oh, je suis en train de prier. Attends, j'arrive. Chérie, je suis en jeûne et prière. Tu es en jeûne et quoi? Moi, j'étais marié pour jeûne. Le gars, t'as pas marié pour jeûne et prière. La Bible a donné des indications claires en ce qui concerne le jeûne et prière. Il a dit qu'avant d'aller jeûner et prier, tu dois te concerter avec ton mari pour que vous entendiez d'abord. Parce que sinon, si tu vas et que le mari n'est pas d'accord, ton jeûne et prière, là, c'est cadeau. Tu es en train de jeûner, c'est un jeûne gratuit. Même si c'est un païen, faut négocier, faut qu'il soit d'accord. Bon, d'accord, chérie, tu peux aller jeûner 3 jours. Ah oui. Celui qui se marie doit se soucier des choses de la chair. C'est obligé. Dès que tu te maries, faut pas dire non. Moi, je porte pas de boucle d'oreille. J'ai pas le temps de me maquiller. J'ai pas le temps de m'occuper de moi. Moi, en tout cas, je suis un enfant de Dieu. Je prie seulement. Ton mari dit, ben, chérie, j'ai faim. Oh, attends, j'arrive, je suis en prière. Chérie, viens voir ici. Je vais venir voir quoi? Non, viens seulement. Non, je suis en prière. Tu vas voir ce qu'il va te montrer. C'est pour ça qu'il dit qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Parce que le diable aussi utilise ça. Il utilise ça. Quand tu viens, tu dis, Seigneur, donne-moi. Il dit, son mari n'est même pas d'accord. On dit, on peut donner. Le diable dit, je m'oppose. On dit, mais pourquoi? Son mari n'est même pas d'accord. Le mari aussi prie, il dit, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. On donne les ordres pour qu'on t'apporte la chose. Satan dit, opposition. On dit, mais pourquoi? Sa femme n'est même pas d'accord. Les deux ne s'entendent pas. Un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. C'est la base, c'est la première des choses. Et ça nécessite un effort mutuel. Tout le monde doit faire ses efforts. Maintenant, si l'autre il n'est pas converti, c'est toi qui dois faire les efforts jusqu'à ce qu'il soit converti. C'est ta responsabilité. Philippiens chapitre 4, verset 6. Septième obstacle, l'anxiété. L'anxiété est un obstacle aussi à la prière. Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Dis à ton voisin, ne t'inquiète de rien. Mais en toute chose, dis en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Maintenant, la conséquence, c'est que, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Donc le fait de s'inquiéter, l'anxiété, s'inquiéter, se mordre des doigts, se ronger les ongles, se demander, non, ça aussi, c'est un blocage, un obstacle à l'efficacité de votre prière. Mais ne vous inquiétez de rien. En toute chose, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit même le téléphone qui sonne à une heure bizarre, ne t'inquiète de rien. Même si on t'annonce une mauvaise nouvelle, ne t'inquiète de rien. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu par des requêtes, des supplications et des actions de grâce. Amen. On en a parlé. Pour ceux qui n'étaient pas là, procurez-vous tous les messages de l'école de la prière. Amen. Ils sont tous disponibles. Et le dernier, c'est la prière d'union. Il est également disponible. Huitième obstacle, les vœux non respectés. Tu as fait un vœu à Dieu. Seigneur, si tu me donnes du travail, je te donne 40% de mes revenus mensuels. J'ai eu le témoignage dans mon ministère en Côte d'Ivoire. Sœur, elle est venue à une de nos réunions et j'avais enseigné sur la puissance du vœu. Après, j'ai demandé aux gens de faire des vœux. Elle a fait un vœu, elle a demandé au Seigneur de lui donner du travail. Et effectivement, et que si elle a du travail, elle va donner 30% de ses revenus au Seigneur. C'est louable. Personne ne t'a obligé. C'est toi-même tu as dit. Tu aurais pu dire 10%, tu aurais pu ne rien dire du tout. Mais tu as dit. Donc elle a dit, je vais donner 30%. Maintenant, elle a eu un bon travail avec un bon salaire. Et lorsqu'elle a eu ce travail-là, au moment où il fallait maintenant donner les 30%, elle trouvait que c'était trop. Elle dit, ah, l'église, le pasteur me va faire quoi avec tout cet argent-là? C'est trop. Si moi je donne, et puis l'autre frère donne, l'autre soeur, tout le monde donne là, mais ça fait beaucoup. C'est trop. Non, je vais donner 10%. Et elle a donné 10%. 2 jours plus tard, on l'appelle, on lui dit, bon, l'entreprise a des difficultés financières, donc pour pouvoir tout rééquilibrer, toutes les personnes qui sont entrées dans l'entreprise, il y a moins de 6 mois, on va les libérer. C'est là qu'elle vient maintenant en pleurs. Oh, homme de Dieu, je me répands, je me répands. Tu te répands de quoi? Non, j'avais fait un vœu à Dieu de donner 30%. Mais quand il était temps de payer, maintenant, j'ai trouvé que c'était trop. Maintenant, on veut me renvoyer. Je dis, ah, il faut demander pardon. Elle s'est repentie. Je dis, bon, il faut faire un autre vœu. pour annuler l'autre, elle a fait. Je crois 1 mois et demi ou 2 mois plus tard, elle a eu du travail, effectivement. Mais elle avait 4 fois moins que ce qu'elle avait comme salaire avant. 4 fois moins. C'est comme Dieu voulait te faire confiance avec beaucoup. Tu as trouvé que c'était trop. Il va te faire confiance maintenant avec un peu. Il va voir maintenant si avec un peu là tu es fidèle, il va augmenter. Mais c'est comme ça. Si, dès le départ, mais il y a un verset qui le dit. Il dit, mais Dieu ne veut pas qu'on vive dans la pauvreté, dans la souffrance, dans les difficultés. Mais c'est parce que lorsque nous étions dans l'abondance, nous n'avons pas regardé Dieu. Que maintenant, on traverse ces moments difficiles. La plupart des gens qui sont dans les églises, à 80%, quand ça allait financièrement, tu leur parlais de Jésus, c'était pas leur problème. Ils ont commencé à écouter les évangélistes lorsque vraiment la situation a commencé à devenir difficile. Mais ça ne veut pas dire que Dieu attend que ça devienne difficile pour pouvoir te bénir. Non. Ça veut dire que tu aurais pu le servir quand tu avais toutes ces choses-là. Mais tu ne l'as pas fait. Deutéronome chapitre 23, verset 21 à 23. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte, et tu te chargerais d'un péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. Mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel ton Dieu et que ta bouche aura prononcé. C'est pas la bouche de quelqu'un d'autre. C'est toi-même ta bouche qui a prononcé. Donc c'est le vœu. Le vœu existe dans la parole de Dieu et c'est puissant. C'est puissant. Un vœu, c'est puissant. J'ai un livre dessus qui s'appelle La puissance du vœu, mais c'est fini. Il a été vendu à plus de 10 000 exemplaires. Ouais, mais je vais le rééditer. Après correction, la puissance du vœu, ça existe. Beaucoup de personnes dans la Bible ont reçu des miracles parce qu'ils ont fait des vœux. Et beaucoup d'entre nous, nous faisons des vœux sans le savoir. Parce que lorsque tu dis au Seigneur, Seigneur, si tu fais ça, je fais ceci, tu viens de faire un vœu. Et quand il accomplit ce que tu as demandé, alors tu dois faire ce que ta bouche a prononcé. Et si tu fais un vœu et que tu ne l'accomplis pas, toutes tes prières, c'est pas une seule prière, toutes tes prières sont bloqués. Toutes tes prières, tes finances sont bloquées. Tu sais pourquoi? Parce que tu as enregistré aussi. C'est comme ici, en France, c'est le système bancaire. Donnez-moi un crédit. J'ai besoin de 20 000 euros. Je vais vous rembourser 200 euros par mois pendant tant de mois. Chaque mois, il faut que tu verses tes 200 euros. Premier mois, tu n'as pas versé tes 200 euros. Deuxième mois, tu n'as pas versé tes 200 euros. On bloque ton compte. Après ça, on t'interdit bancaire. Interdit bancaire, c'est toutes les banques. Tu dis non, où je suis là, mon nom est gâté là-bas, donc je vais aller dans une autre banque. Quand tu vas dans l'autre banque, tu arrives, on prend les informations, quand on envoie la demande d'autorisation, pim, pim, ça cligne, un bouton rouge, on dit non, celui-là, c'est un dangereux, il ne paye pas ses crédits. Tu peux prendre tous les crédits que tu veux, pourvu que tu les rembourses. Et c'est ça, c'est comme un vœu, ça fonctionne comme un vœu. Si vous me donnez ça, moi je vous donne ça. Maintenant, toi, tu prends et tu veux pas donner. On te casse. Plus de chéquier, plus de carte de crédit, plus de rien du tout. Et c'est comme ça. Au ciel, tu viens, tu dis, Seigneur, Dieu prend très au sérieux les vœux. Je dis, je vais vous donner l'enseignement. Dieu prend très au sérieux les vœux. Tu viens, tu fais un vœu à Dieu. Toi, tu penses que c'est de l'amusement. Seigneur, si mon fils réussit à son examen, je vais... Voilà. Tu dis un truc comme ça, mais faut réfléchir avant de le dire. Parce que si c'est sorti de ta bouche, là, tu vas l'accomplir. Dans la Bible dit qu'il y a un homme qui allait à la guerre. Il a dit, Seigneur, si je gagne cette guerre-là, la première personne qui vient à ma rencontre, à mon retour, je la sacrifie pour toi. Maintenant, il va à la guerre, il gagne le combat, quand il revient, c'est sa fille. Et la Bible insiste pour dire qu'elle était vierge. Qui vient maintenant, qui couvre lui, papa, me dit, vraiment, tu m'as tué. Il pensait que ça allait être une servante ou un, parce qu'il y a toujours un serviteur zélé là, qui est toujours plus chaud que les enfants pour venir saluer le patron. C'est lui, et peut-être il savait déjà même qui il allait sacrifier déjà. Mais il s'avérait que ce jour-là, il y a un sommeil qui est tombé sur le gars, il savait pas que son patron revenait, la fille l'a devancé. Il était obligé de la sacrifier. Sois quelqu'un qui tient ses paroles et qui tient ses promesses. Quand tu dis quelque chose, quand tu promets quelque chose, tu le fais. Même les enveloppes, c'est pas fou. Il y en a qui sont toujours chauds pour prendre les enveloppes dans les églises. Si tu ne veux pas donner, faut pas prendre l'enveloppe. Personne ne t'a forcé et personne ne va te juger parce que tu n'as pas pris d'enveloppe. En tout cas, si l'homme de Dieu il est honnête. Ok? Donc, faut pas te forcer. Mais si tu as pris l'enveloppe, faut honorer l'engagement. Parce que si tu ne l'honores pas, même dans 5, tes prières ne vont pas monter. Ça va pas, c'est un obstacle majeur. Les vœux non accomplis sont des blocages dangereux. Parce que tu es sur la liste rouge du ciel. Comme un élément dangereux qui n'honore pas ses engagements. Amen. Donc, vous avez ça, les vœux non respectés. Maintenant, le dernier obstacle, ce sont les vaines répétitions. Bon, pour les vœux non respectés, vous avez Ecclésiaste chapitre 5, verset 4 à 6. Et puis, vous avez Nombre, chapitre 30, verset 2. Hein, en plus de Deutéronome 23, verset 21 à 23. Les vaines répétitions. Matthieu, chapitre 6, verset 5 à 7. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues, au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Amen. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Amen. Voilà. Donc, quelqu'un peut se dire, ah, mais donc, il faut pas prier puisque Dieu sait ce dont j'ai besoin. Ce n'est pas ce que le verset dit. Et c'est comme ça qu'il a été interprété souvent. Les parents se disent, ah oui, comme la Bible dit, il ne faut pas multiplier de vaines paroles. Effectivement, il ne faut pas penser que c'est le fait de répéter qui va faire que la chose va finir par arriver. Mais il faut savoir que c'est quelqu'un qui donne de la puissance à ta prière. C'est cette personne, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et que pour que ta prière soit efficace, il faut que tu sois déjà que tu aies de bonnes motivations, que tu marches selon la volonté de Dieu, que tu n'aies pas de péché, que tu n'aies confessé, que tu ne sois pas quelqu'un qui fait des vœux et qui ne les respecte pas. Tu vois qu'il y a toutes ces choses-là, que tu ne vives pas dans la discorde et dans des problèmes avec les gens, mais que tu sois vraiment quelqu'un qui marche dans les voies de Dieu. Amen. Et ne pense pas que c'est à force de répéter les choses que les choses vont finir par s'accomplir. Moi, je ne suis pas contre les livres, les manuels de prière, ou les livres où vous avez des prières, ou bien le fait qu'on vous apprenne à prier. Non, je ne suis pas contre. Mais je ne suis pas également pour que ce soit votre seule manière de prier. Pour moi, ces livres sont intéressants dans la mesure où ils vous apprennent à formuler des prières et ils mettent le doigt sur des choses peut-être que vous ne connaissez pas ou bien que vous avez ignorées. Mais n'en demeure pas moins que la prière, c'est une conversation avec notre Père. Parce qu'après, il a dit, voilà comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Donc quand tu parles à ton Père, tu lui parles sincèrement et tu lui dis des choses vraies. Tu ne vas pas emprunter des paroles à quelqu'un d'autre et tu viens lui donner. Comment toi tu vas réagir si ta fille vient te parler ou bien ton fils vient te parler? Cher maman, je t'aime, c'est un de ses amis de l'école qui a écrit une lettre et te dit quand tu veux demander quelque chose à ta maman, là, voilà comment tu dois prier. Et puis il écrit. Et puis maintenant, il vient et dit, chère maman, je t'aime beaucoup. Tu es la femme la plus jolie de la terre. Je voudrais te demander de m'acheter des cartes de Pokémon et puis aussi de... Tu vas lui dire, mais... En tout cas, si, c'est impossible que ce genre de choses-là marche. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas lire aussi un livre ou bien il ne peut pas lire la lettre de son ami. Et puis, c'est s'en inspirer pour pouvoir lui-même formuler ses propres prières. Est-ce que vous me comprenez? Voilà. Vous venez pas devant Dieu avec un livre. Papa, je t'aime beaucoup. Et des fois même, c'est mal écrit. Des fois, il y a des erreurs. Mais toi, tu sais pas si tu dois lire avec l'erreur ou bien si tu dois pas. Non, c'est pas comme ça, mon frère. Amen. Il faut, tu lis les prières, tu vois, tu dis, ah ok, donc c'est comme ça qu'on peut prier et tout. Et ensuite, toi-même, tu viens devant Dieu avec sincérité, avec honnêteté, tu lui ouvres ton cœur et tu te réponds devant lui. Et à ce moment-là, tu es sûr que ta prière sera exaucée. Tous ces obstacles sont de vrais obstacles qui peuvent bloquer tes prières. Mais si ces obstacles-là sont enlevés, alors tes prières seront efficace. Alléluia. On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Et on va lui demander déjà ce soir de nous pardonner si nous avons fait un vœu que nous n'avons pas respecté. Mais bon, ça va au-delà de ça. Hein. Si vous êtes dans le cas, venez me rencontrer. Voilà, parce que ça, c'est une chose spéciale. Tu as fait un vœu, tu n'as pas respecté, tu viens me voir. Je vais t'expliquer comment est-ce que tu vas régler cette affaire-là. Tu vas me dire quel est le vœu que tu as fait. Et puis on va voir comment est-ce qu'on va régler cette affaire. Amen. Voilà. Si aussi tu m'entends sur Internet ou bien sur un CD, tu peux également écrire une lettre et puis l'envoyer à mon ministère. Voilà. On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Tu vas élever la voix devant ton Dieu. Et tu vas lui dire... Tu vas lui demander que ces choses-là ne partent jamais de ton cœur. Qu'elles restent toujours gravées dans ton esprit. Et qu'au-delà de la vérité que tu as reçue, il te donne plus. C'est-à-dire qu'il te donne la capacité de pouvoir mettre cette vérité en pratique pour obtenir des résultats. Qu'il fasse de toi quelqu'un qui obtient des résultats dans la prière. Alléluia. quelqu'un qu'il bénit énormément et tu vas bannir de ta vie tous les obstacles à ta prière au nom de Jésus. Prie ton Dieu maintenant. Prie ton Dieu, prie ton Dieu.